Contre-spirituel aujourd'hui, il est question de Don Albert Jamais, un bénédictin français qui est devenu québécois, en fait, tellement québécois, que il a publié une vie, tout d'abord, au début des années 40, de Marguerite Bourgeois, de Sainte Marguerite Bourgeois, qui a été canonisée plus tard. Ce qui lui a mérité en 1942 de la Société historique de Montréal, la médaille du meilleur travail historique de l'année. Mais il est surtout connu, Don Albert Jamais, J-A-M-E-T, pour son intérêt immense qu'il a porté à Marie de l'Incarnation, la bienheureuse Marie de l'Incarnation, qui est, comme vous savez, peut-être la personne la plus remarquable de notre histoire, à mon avis, une femme tellement extraordinaire, tellement merveilleuse, tant sur le plan concret de ce qu'elle a fait à Québec au début de notre pays, que sur le plan de l'union à Dieu et de ce qu'elle a écrit, et qu'elle a écrit admirablement, dans une langue superbe, merveilleuse, des récits extraordinaires d'abord sur notre pays. Quand elle écrivait, elle avait un fils qui était bénédictin en France, elle lui écrivait, puis elle écrit à bien d'autres personnes. Elle a laissé une correspondance fantastique, mais elle a laissé aussi des écrits sur sa vie spirituelle intime. 6 ans après avoir reçu ce témoignage d'appréciation, cette médaille du meilleur travail historique de l'année pour sa biographie de Marguerite Bourgeois, dont Albert Jamais est décédé le 24 août 1948. Et il s'est éteint à l'âge de 65 ans, à l'Hôtel-Dieu de Québec, où il avait été hospitalisé. À l'annonce de sa mort, un journal a parlé de la disparition d'un grand prélat historien. Il n'avait rien d'un prélat, c'était un moine pauvre qui vivait dans la plus grande simplicité. Il n'avait aucun titre de monseigneur ou quoi que ce soit. Il ne portait ni de rouge ni de bague. Il a été fort. Il a dû, j'imagine, au ciel être fort surpris de s'entendre traiter de prélat. Mais historien, ça, il le reconnaissait, j'en suis sûr. Et il n'avait eu, en tant que moine, jamais la moindre idée de prélature. Il était né un 6 février, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1883. Et on peut dire que Don Jamais est québécois, hein, par la presque totalité de son œuvre, par les innombrables amitiés qu'il a développées ici, dans notre pays, et par la dernière partie de sa vie qu'il passe au monastère de Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes, fondé à Saint-Eustache sur la propriété de la famille Matisse, qui a donné à Saint-Benoît-du-Lac un moine dont Jean Matisse, dont j'ai parlé déjà, je lui ai consacré une émission. Et il a été donc le premier chapelain, si vous voulez, le premier aumônier des bénédictines de Saint-Eustache. Un aumônier, un chapelain, je l'ai dit, pour les plus jeunes qui se demandent ce que c'est un prêtre qui est attaché à une communauté de sœurs. S'il leur dit la messe, il les confesse, il les aide. Mais la raison pour laquelle vraiment on se souvient de Don Jamais au Québec, puis dans le monde, surtout en France et en Belgique, c'est à titre d'éditeur des œuvres de Marie de l'Incarnation. Il a fait un travail de bénédictin, c'est le cas de le dire. Il mérite plus que les notices nécrologiques qui ont été publiées ça et là dans la presse au moment de sa disparition. Quand on lit ça, c'est désolant. Il y en a vraiment une, elle est due à Jean Houpert, oblat de Saint-Benoît-du-Lac, historien, homme marié, qui a publié dans le journal Notre Temps, aujourd'hui disparu, le 11 septembre, donc 2 semaines et demie après le décès, 11 septembre 1948, il a publié un texte qui est très bien fait. Don Albert Jamais, c'est vraiment une personnalité remarquable. Je l'ai dit parce que toute sa vie est remarquable. Il est parti de loin, au fond, dans sa jeunesse. Don Jamais est né au pays de Marie de l'Incarnation, d'ailleurs. Il est né, en effet, au cœur du plus grand des vignobles. Ça peut intéresser ceux qui aiment le bon vin. Les vignobles Tourangeau, de la région de Tours, à Vouvray. À Vouvray, c'était un vin qu'appréciait beaucoup Rabelais. Il en parle d'ailleurs dans Pantagruel. Bon, je vous ai fait une émission il n'y a pas longtemps, le 9 avril dernier, sur Rabelais. Et il est donc né là, comme je vous ai dit, le 6 février 1883. Puis il n'a jamais renié cette origine qui lui était très chère, parce qu'il savait apprécier le bon vin. Et sur son enfance, nous avons des souvenirs qui sont laissés par sa jeune cousine, qui s'appelait, elle aussi, Sœur Marie de l'Incarnation, par hasard, de la communauté des Augustines, elle, de Saint-Louan, près de Chinon. Albert Jamais n'a pas connu sa mère, qui est morte 2 mois après sa naissance. C'est triste. Et bien peu son père, qui est mort 3 ans plus tard. C'est donc un orphelin qui a été élevé par sa grand-mère maternelle, qui l'a beaucoup gâté. Heureusement, une bonne grand-mère. Et c'est à Tours, cette belle ville de Tours, que s'est écoulée sa petite enfance, puis à Membrol, presque aux portes de la ville, sur la route du Mans, et puis enfin à Monet, sur la grande route de Paris, à une 15aine de kilomètres de la ville, où Charles de Foucault était venu en 1878 passer ses permissions à l'école de cavalerie Saumur, chez sa cousine, la vicomtesse de Flavigny, au château du Mortier. Je vous avais déjà parlé de ça, en parlant de Charles de Foucault. Je vous ai fait plusieurs émissions sur Charles de Foucault. Je compte vous en faire d'autres, car j'aime beaucoup Charles de Foucault. Dont Jamais, le petit Albert Jamais, vit donc là, jusqu'à l'âge de 10 ans, 1893, quoi. Il semble avoir été un enfant heureux, malgré les deux deuils qu'il a subis dans sa toute tendre enfance, puis l'absence de frères et de sœurs. J'aime bien, on raconte qu'il était très taquin avec ses cousins, il était même espiègle, toujours prêt à manger, et assez peu assidu au travail. Dieu choisit souvent ce genre d'enfants-là, hein? Curieux, parce qu'ils ont peut-être un peu plus de caractère que les autres trop sages, je ne sais pas. Ils faisaient souvent l'école buissonnière, dit-on. Mais c'est pas un conseil que je donne aux enfants. Et son oncle et tuteur, M. Housseau, veut mettre le haut-là à une existence qui était trop dépourvue de discipline, puis fait entrer Albert Jamais dans l'orphelinat de Tours, où lui-même a été élevé. Mais les vieux textes ne précisent pas. On a, par Don Jamais lui-même, la certitude qu'il s'agit de la maîtrise de la cathédrale, en fait. C'est là qu'il est entré. Alors, ça lui a appris, évidemment, à chanter. Peut-être un peu pour ça qu'il est devenu bénédictin. Il a donc été élevé à l'ombre de la grande église. Cette paroisse de Balzac, hein, quand il était enfant... Vous savez, vous avez peut-être vu ça passe même à la télévision, c'est le curé de Tours. Écrit par Balzac, c'était mis en film, c'était tourné. Et puis, Balzac décrit avec amour cette église que j'ai bien connue, la paroisse de Tours. J'étais bien ami avec le curé. Toujours est-il que le jeune Albert Jamais, il a d'abord été très malheureux. Il était séparé de sa famille, sa grand-mère. Mais au moins, les études ont pris un tour sérieux. Puis, il a passé brillamment son certificat d'études primaires à 12 ans, et sa scolarité était provisoirement terminée, parce qu'il est entré à ce moment-là comme domestique, pauvre orphelin, dans une famille de Tours, qu'il a adopté, puis qu'il l'a gardé ensuite avec lui, longtemps, en le revoyant, puis ils avaient des relations affectueuses. C'est en tout cas au sein de cette famille de Tours, comme on dit, une famille tourangelle, j'aime bien ce mot, que l'on a discerné chez lui une vocation. Alors, on l'oriente vers le petit séminaire qui occupe les locaux de l'ancien couvent des Ursulines où Marie de l'Incarnation avait vécu. Ses études sont payées, puis on veille sur lui. Et pendant les vacances, bien, le jeune Albert Jamais retrouve ses cousines. Et l'une d'elles a raconté, si on ne le servait pas le premier à la collation, comme il était toujours affamé, il mordait dans la tartine des autres. Puis pour les jeux, il était toujours le premier à donner le branle. Il aimait bien s'amuser. Un prêtre de grande valeur a pris en affection ce jeune petit séminariste. C'est l'abbé Denis. Et c'est Don Gageard, le fameux Don Gageard, maître de chœur de Solesmes, qui écrit dans ses souvenirs, « J'eus la chance de la classe de troisième à la classe de rhétorique d'avoir comme supérieur un prêtre éminent, M. Denis. » C'est le même abbé Denis, voyez-vous. « Excellent théologien, possédant à fond le sens de l'Église et par ailleurs très ami de Don Delatte, l'abbé de Solesmes. » Je vous prépare une émission sur Don Delatte que j'ai beaucoup aimé en le lisant, en l'étudiant. Et c'est lui qui a orienté vers l'abbaye de Solesmes le futur Don Savaton, abbé de Visque, comme il devait plus tard présenter et appuyer ma demande d'entrée à Solesmes. Ses lectures spirituelles à l'abbé Denis le soir et ses cours d'instruction religieuse ont eu sur moi une grosse influence. C'est donc dire que c'est un prêtre séculier, l'abbé Denis, qui s'est occupé de Don Jamais, qui avait une âme, pour ainsi dire, de bénédictin. Il faisait rentrer les jeunes à Solesmes, voyez-vous. Et la cousine mentionnée plus haut, elle rapporte aussi des souvenirs plus terre à terre, mais tout aussi attachants. Elle dit que M. le chanoine Denis le considérait comme son fils, Albert Jamais. Et Albert Jamais agissait, dit-elle, avec lui, comme un enfant gâté. Il aimait beaucoup manger ses confitures qu'il trouvait dans une armoire, et il avait bien soin de remettre les pots en place comme s'il n'y avait pas touché, et le bon chanoine était très heureux de la farce. Mais c'est un autre prêtre qui a fait connaître aux jeunes séminaristes la vie de Marie de l'Incarnation. Et cette fois, les souvenirs sont ceux de l'abbé Séguel, qui était né à Tours, qui a été doyen de l'île Bouchard. Vous savez où il y a eu des apparitions? Il a d'ailleurs écrit sur les fameuses apparitions de l'île Bouchard. Et puis, d'autres aussi ont écrit là-dessus. J'y suis allé à l'île Bouchard vénérer cet endroit un peu à gauche de l'hôtel où il y aurait eu ces apparitions, qui semblent assez sûres. Un professeur, l'abbé Durand, chaque année, avait coutume de conduire tel groupe d'élèves à une petite chapelle située dans le grand jardin du petit séminaire. Cette petite chapelle était dédiée à Saint-Joseph, toute petite chapelle. Et cette chapelle existait au temps de Marie de l'Incarnation, et celle-ci aimait à y aller souvent. Et elle priait là dans le complet recueillement et confiait à Saint-Joseph ses intentions, ayant une grande confiance en lui. Or, quand Don Jamais a été conduit à cette chapelle par l'abbé Durand, il a entendu le professeur parlait de Marie de l'Incarnation, de sa dévotion à Saint-Joseph et de ses visites à cette chapelle. Et ce qu'il y a entendu, ça l'a beaucoup intéressé. C'est alors, pendant que les renseignements sur Marie de l'Incarnation étaient donnés, que tout à coup, une émotion très vive s'est emparée de lui. Il n'a jamais pu expliquer pourquoi, mais le fait était là. Une très vive émotion s'était emparée de lui et a duré tant que la visite a duré et que le professeur a parlé. Et tout ça va engendrer en lui l'édition des œuvres, pour ainsi dire, complètes de Marie de l'Incarnation en d'innombrables volumes. Il avait plusieurs amis qui lui parlaient souvent de Solesmes, le chanoine Denis, comme je vous ai parlé, puis le jeune abbé Savaton notamment. Et Albert Jamais se sentit aussi appelé à la vie monastique. Mais Solesmes n'était plus à Solesmes. Ils avaient été chassés par la législation française, les monastères étaient disparus. Et les moines étaient réfugiés à l'île de Wight, dans une grande demeure du 18e siècle. Et c'est là qu'il va entrer pour se faire bénédictin, dans le sud de l'Angleterre, dans l'île de Wight, où a habité la famille des Churchill. Alors, nous retrouvons le jeune Albert Jamais, qui entre, alors qu'il n'est que sous-diacre, il entre au monastère, dans un monastère, au fond, qui vient d'être établi là. Solesmes vient de se réfugier, dans l'île de Wight. Mais ils auront à déménager quelques années plus tard dans une abbaye au nord de l'île, à Quar Abbey. Une abbaye qui va être construite, qui sera moderne et assez étonnante. Il a été formé par le fameux Don Jean de Pugnet, qui est le futur abbé de Saint-Paul d'Osterhout en Hollande. C'est là qu'est entré cet homme dont je vous ai parlé l'autre jour. On parlait surtout de sa femme, Christine van der Meer de Valkeren, dont le mari, après qu'elle est morte, est entré à l'abbaye d'Osterhout en Hollande. Alors, il fait profession, Albert Jamais, le 15 août 1907, au terme du noviciat d'un an, qui suivait le postulat. Puis ce qui est assez étonnant, avant le code de droit canonique de 1917, vous savez qu'il y a eu, l'Église a établi un code en 1917, mais la profession n'était pas précédée d'un engagement temporaire de 3 ans. Elle était tout de suite perpétuelle et solennelle. Ça veut dire qu'en un an et demi, un an de noviciat, postulat de 6 mois à peu près, Ben, il s'engagea solennellement pour toujours. C'est incroyable. Alors, tout en restant au noviciat pour 2 années encore, le père Jamais, le jeune père Jamais, termine ses études de théologie. Le père de Pugnet, dont je viens de vous parler, venait d'être envoyé en Hollande. Albert Jamais est ordonné prêtre un 24 juin, c'est assez prémonitoire, pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, 1909, et tout de suite après, il est nommé zélateur, c'est-à-dire assistant du maître des novices. L'un des premiers candidats qu'il va recevoir, c'est l'abbé Joseph Gageard, qui va devenir ce fameux et illustre grégorianiste, qui était de 3 ans plus jeune que lui. L'année précédente, la communauté de Solesme avait donc émigré à Coire Abbey, sur le domaine d'un ancien monastère, la congrégation de Savigny, devenue cistercien avec l'ensemble du groupement monastique au milieu du 12e siècle. Il restait que des ruines. Alors, les nouveaux occupants ont édifié un vaste monastère en briques, et c'est l'architecte qui a fait ça, c'est l'architecte de Saint-Benoît-du-Lac, dont Paul Bellot. C'est un monastère, j'y suis allé, j'y ai résidé, c'est un monastère en pierre, en briques, rose, avec à l'occasion, ici et là, une brique d'un vert très très tendre. Et c'est très étrange, c'était construit, imaginez, dans les premières années de ce siècle. Et c'est un très beau monastère dans la verdure anglaise, c'est magnifique. Donc le rôle du zélateur Albert Jamais, dont Albert Jamais, c'est de seconder le père maître des novices. Hein, c'est ça un zélateur. Il donne aux jeunes moines en formation une première initiation à la liturgie, à l'observance monastique, et dont Jamais se donne de tout son cœur à sa tâche, qui est souvent interrompue malheureusement par sa mauvaise santé et des maux de tête, qui ne lui permettent pas d'entreprendre des travaux intellectuels de longue haleine, imaginez. Et il va en faire toute sa vie. La charge du noviciat de Solesme n'était pas une sinécure, le monastère de Solesme qui était à Coire Abbey, dans l'île de Wight au sud de l'Angleterre, réfugié là. Les novices étaient nombreux, ça exigeait de la part du zélateur une grande dépense d'énergie. De toute façon, fidèle, dont Jamais l'est toute sa vie. Sa doctrine spirituelle, personnelle dans son expression, c'est un écho de l'enseignement qu'il a reçu du grand abbé, qu'il avait assimilé parfaitement et qui était devenu sien. Son père abbé était vraiment un père abbé remarquable. Il avait eu Don Paul Renaudin, auquel on doit des livres sur Marie de l'Incarnation. Ma joie, dit-il, est d'être fidèle à votre pensée et d'agir selon vos directions. Hors de cela, il n'y a guère d'amertume sur le chemin. On monte le Carmel dans la nuit obscure, car tout est réuni à la fois. Le Seigneur ne semble avoir les mains ouvertes que pour laisser tomber les épreuves les unes après les autres, ou encore tout à la fois. Bon, il voit le Seigneur qui envoie des épreuves. C'est un peu délicat, mais peut-être qu'il a raison. Il écrit ça en 1911. Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs outre mesure de ses plaintes. Il se plaint de temps en temps, quand il est jeune. Elles tiennent à l'état un peu de dépression du père Jamais. Il souffre un peu de ça, ça pourra en consoler quelques-uns qui ont tendance à la dépression. Mais il n'en guérira complètement, selon ce qu'il a confié au père Adrien Pouliot, de Montréal, que le jour où il mettra le pied sur le sol canadien, et il attribuait ce changement radical à Marie de l'Incarnation. Mais dans la vie courante, la neurasthénie n'empêche pas la bonne humeur, et dont Jamais sait se montrer plein d'humour, malicieux même. Et on l'avait même surnommé le petit serpent, parce qu'il avait parfois la langue un peu acérée. Il dit, « Je me sens maintenant plus fort et plus moine, plus attaché à Dieu que par le passé, plus prêt à faire des sacrifices. Je ne sais de quoi sera fait l'avenir, ici ou là, mais les épreuves ne m'effraient plus. » Il écrit ça le 4 septembre, il a 28 ans. Alors, à Coire, il voit s'achever le chantier de la grande église, dessiné par Don Paul Bellot, dont je vous ai parlé. La première pierre avait été posée en 1911. Le lendemain de Pâques, elle provenait des carrières de Solesme, près du Mans, en France. La dédicace de cette belle grande église de briques a eu lieu le 12 octobre 1912. C'est à ce moment qu'il découvre Marie de l'Incarnation. Il redécouvre. Un jour, dans la cellule d'un moine, il s'agit de Don Savaton, qui était son confesseur, il aperçoit sur la table les deux gros volumes de la correspondance éditée par le chanoine Richaudeau en 1876. Il les ouvre, il les feuillette. La conversation se porte sur Marie l'Incarnation, Ursuline. Et le moine lui dit son admiration profonde pour Marie l'Incarnation. Il n'existe pas d'édition critique, puis il serait bon, dit-il, d'y travailler. Alors, Don Savaton lui-même écrit le 10 août 1945, « Je reste fier de l'avoir aiguillé un jour vers l'orbite de Marie de l'Incarnation. » C'est lui qui a aiguillé Albert Jamais. L'abbé encouragera aussi beaucoup et conseillera Don Albert Jamais dans sa publication de la vie et des œuvres de la vénérable Marie de l'Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec, appelée par Bossuet la Sainte Thérèse du Nouveau Monde. C'est vraiment notre plus grande sainte, à mon avis, hein? Et qui relate ses hautes expériences mystiques dans un style si magnifiquement ferme et lucide. C'est ce qu'écrit Don Augustin Savaton dans son ouvrage consacré à Don Paul de Latte. Marie Guyard, c'était le nom de Marie de l'Incarnation, ça, qui est devenue Marie Martin en se mariant, puis elle a eu un fils, Claude Martin, et qui est devenu bénédictin. Marie Guyard n'était pas une inconnue à Solesmes. Don Guéranger, le fondateur de Solesmes, encourageait la lecture de ses œuvres. Puis la première abbesse, la abbesse de Sainte-Cécile, Madame Cécile Bruyère, qui va être à Rencontre spirituelle dans quelques semaines, Cécile Bruyère, avait recopié dans ses papiers personnels des textes de cette grande Ursuline, dont l'un est passé sous son nom dans un recueil publié en 1966. On pensait que c'était de Cécile Bruyère, mais non, c'était de Marie de l'Incarnation. Et en fait, Don Jamais ne s'est pas lancé tout de suite dans l'immense travail. Il s'est contenté de faire connaissance avec Marie de l'Incarnation, dont le souvenir l'avait profondément ému. Vous savez, autant son petit séminaire, là, à la petite chapelle Saint-Joseph, de l'ancien couvent des Ursulines. Sa santé n'était pas suffisamment fermée pour entreprendre une œuvre de longue haleine. Il avait besoin aussi de se former. Il a reçu d'ailleurs une charge d'enseignement pour la formation des jeunes théologiens du monastère. La préparation des cours lui demandait beaucoup de travail. Puis, il s'est mis en devoir de réunir toutes sortes de notes qui devaient lui servir par la suite. Et le vrai travail commence en 1922. Les moines viennent de rentrer d'exil enfin et de réintégrer leur monastère de Solesmes sur les bords de la Sarthe. Don de Latte, l'abbé, avait donné sa démission pour raison de santé. Le nouvel abbé était un Breton, dont Germain Cosien, que j'ai connu, n'était pas très grand, ancien professeur au grand séminaire de Quimper. Et là, les choses sont décidées, dont Jamais est chargé du grand travail, et désormais, l'édition des écrits de Marie de l'Incarnation devient le principal travail du moine. Il avait l'intention de faire une œuvre exhaustive et définitive, un vrai travail de bénédictin, de telle sorte qu'on ne puisse plus s'occuper, disait-il, de l'Ursuline sans se référer à mon travail. Dans l'histoire du sentiment religieux en France d'Henri Bremond, dont le premier tome avait paru en 1915, que j'aimerais mettre la main sur cet ouvrage de Don Bremond, je ne l'ai pas, ben il y a servi de référence continuelle quant à la manière de traiter son sujet. Et puis, en 1909, à la suite de la découverte de quelques lettres inédites de Marie de l'Incarnation, mais M. Grisel, qui avait publié un petit livre, où il recommandait que l'on entreprenne une vaste enquête pour tenter de retrouver les originaux, et c'est le père Jamais, dont Jamais, qui va l'entreprendre. Puis, il fait un dépouillement infructueux des catalogues de bibliothèques publiques, puis une enquête plus conclusive sur les archives conservées dans les diverses maisons d'Ursuline en France. Puis, finalement, il va longuement à Tours travailler sur le fond des archives départementales. Il loge chez son cousin Alfred, puis il visite de nombreux amis qu'il avait conservés dans le clergé séculier de Tours et les membres de sa famille paternelle. Et quand il travaille aux archives de Tours, il lui faut ménager ses yeux, il se fatigue facilement. Et Don Jamais ne pouvait commencer son travail définitif sans avoir consulté les archives des Ursulines de Québec. Alors, avec la permission de Don Cosien, l'abbé de Solesmes, il fait donc un premier voyage outre-Atlantique en 1926, au cours duquel il séjourne longtemps au vieux monastère de Québec. C'est alors qu'il fait la découverte du fameux manuscrit de la Relation de 1654 conservé au couvent de Trois-Rivières, et là, il est très heureux. Enfin, il va pouvoir faire son travail. C'est un livre admirable. Ça contient la première relation autobiographique de 1633, où Marie de l'Incarnation parle d'elle-même, avec ses compléments, quelques lettres, ou fragments de lettres, de la même époque, quelques élévations qui sont superbes. Ah! C'est une grande mystique. Puis, un court entretien spirituel sur l'épouse des cantiques, qui date de la période de Tours, le tout précédé par une longue introduction générale de Don Albert Jamais. Et l'entreprise était lancée. Le volume est achevé d'imprimer en janvier 1929. Il a 46 ans. C'est sur les presses de Desclés de Brouwer à Bruges. Mais l'avant-propos porte la date du 30 avril 1928. C'est publié de façon admirable. Or, il y a 3 volumes comme ça. Des volumes énormes, 400, 500 pages, en très beau papier. Il avait voulu publier un ouvrage qui fut digne de Marie de l'Incarnation. C'est donc une édition de luxe, dont chacun des détails a été voulu et décidé par l'auteur. Il a fait le choix des caractères. Et pour connaître le plan général que se propose de suivre Don Jamais, il est nécessaire de se reporter au chapitre 3e de l'introduction générale. Le travail de Don Jamais a bénéficié de l'expérience des rééditions déjà faites des écrivains spirituels du XVIIe siècle, mais tout spécialement de celles de Saint-François de Sales, de Bossuet et de Saint-Vincent de Paul. Il dit, « À nous en tenir aux documents que nous possédons déjà et aux quelques pièces qui sont venues dernièrement s'y ajouter, la réédition des œuvres de Marie de l'Incarnation comprendra 6 volumes de textes. Les écrits de la vénérable Ursuline se partagent d'eux-mêmes en 3 catégories. Premièrement, mes écrits spirituels proprement dits, autobiographie, relations de conscience, etc. Deuxièmement, les lettres presque toutes adressées de Québec en France. Et troisièmement, un manuel de pédagogie religieuse, recueil d'instructions sur la doctrine chrétienne. Ça peut intéresser beaucoup de monde, ça, le 3e tome. Hein? Des 6 volumes de la présente réédition, 2 seront réservés au premier groupe, 3 au second et 1 au troisième. C'est le dernier tome pour la pédagogie. À ce moment, il semble que Don Jamais n'ait pas encore envisagé de composer une nouvelle biographie de Marie de l'Incarnation. De toute façon, Henri Bremont, le fameux Henri Bremont, félicite Don Albert Jamais pour son travail et l'œuvre est couronnée par l'Académie française. Mais afin de permettre à un plus grand public de connaître la bienheureuse Marie de l'Incarnation, Don Jamais a préparé un volume que vous avez peut-être dans votre bibliothèque. C'est un volume d'extraits, publié chez Beauchesne en janvier 1932, intitulé « Le témoignage de Marie de l'Incarnation ». J'avais hérité de ça à 15 ans. Ça m'avait été remis par M. Gigi Joubert, qui est décédé à ce moment-là. Mais ça m'a beaucoup saisi, ce témoignage de Marie de l'Incarnation. C'est si beau. Quel beau livre. La qualité puis la présentation de la typographie là, sont les mêmes que pour les 2 volumes déjà publiés. Il y en aura d'autres. Beaucoup de ceux qui ont fait connaissance avec Marie de l'Incarnation, comme le cardinal Journet, le cardinal Garonne, le pape Paul VI, parmi bien d'autres, ont abordé Marie de l'Incarnation en lisant le témoignage de Marie de l'Incarnation, ce livre publié en janvier 1932. Ça se présente sous la forme d'une autobiographie composite, complète, couvrant toute la vie de Marie de l'Incarnation depuis l'éveil de sa raison, oui, jusqu'à sa mort. C'était déjà l'idée qui avait présidé à la rédaction de la vie par son fils, donc Claude Martin, en 1677. Et grâce à l'annonce des écrits en préparation, on constate que cette fois, Don Albert Jamais avait l'intention de couronner la réédition par un 7e tome consacré à une vie nouvelle de Marie de l'Incarnation. Un autre ouvrage de simple initiation porte un titre très marqué par la mentalité de l'entre-deux-guerres, là, Marie de l'Incarnation, la mystique et la française, la mère de la patrie. Donc c'est à Québec même qu'il termine la préparation du premier tome, de la correspondance, et puis finalement, le troisième tome couvre les années 1635-1644, il y a tellement de lettres admirables là-dedans à lire, Et c'est les lettres de tant des tentatives là, pour réaliser la vocation au Canada et celle de l'installation à Québec où Ursuline débarque le 1er août 1639. Elle est arrivée très tôt, avant la fondation de Montréal, comme vous voyez. Les Ursulines, quel courage elles avaient. Et il faut ensuite attendre l'automne 1938 pour que soit achevé le quatrième tome qui couvre les années 1644 à 1652. Et l'ouvrage paraît cette fois-ci à Paris, en 1939. Il reste 20 années de correspondance à publier. Quel travail énorme, hein? Alors la situation internationale va rendre pratiquement impossible la poursuite de la réédition. C'est la guerre en septembre 1939. Puis bientôt, les exemplaires non encore vendus, qui sont stockés chez Desclée de Brouwer à Bruges, sont détruits dans un incendie. Quelle tristesse. Dans l'intervalle, entre le premier et le second volume de la correspondance, la vie de Don Jamais a pris une nouvelle orientation, parce qu'en septembre 36, l'abbé de Solesmes conduisait à Montréal quatre moniales du monastère de Notre-Dame de Visque, c'est dans le nord de la France, pour commencer avec quelques oblates bénédictines de Montréal, dont la sœur de Don Mathis, la fondation d'un monastère cloîtré sur le bord du lac des Deux-Montagnes à Saint-Eustache. Alors, c'est les Sulpiciens qui sont les aumôniers officiellement de ce monastère. Et puis, c'est un aumônier qui vient de Lyon, un Sulpicien de Lyon qui est nommé, dont jamais se trouvait à Québec lorsque le groupe des fondatrices est arrivé. Il les accueille et facilite les premiers contacts, parce qu'ils sont débarqués évidemment à Québec. Hein. Il vient ensuite passer les fêtes de Noël auprès du monastère provisoire, avenue du Parc, à Montréal. Puis il y a une amitié faite d'estime réciproque qui naît entre la supérieure, qui est la fameuse Madame Gertrude Adam, ah, très connue, qui était abbesse très longtemps, et ce bon moine de Solesmes qui est Don Albert Jamais. Et dans une lettre du 29 janvier, cette année-là, en 1937, je crois, ma mère Gertrude, Don Sabaton écrit de Visque, « Je ne m'étonne pas que mon compatriote vous intéresse, c'est un esprit très délié et délicat que Don Jamais, et un solesmier. » Quand on disait d'un bénédictin qui était un solesmier, c'est-à-dire un moine de Solesmes, c'était le nec plus ultra, c'était le sommet. Et puis il ajoute, « Marie de l'Incarnation lui a fait du bien. » Or, la santé précaire du Sulpicien aumônier, le premier chapelain des bénédictines, rend bientôt la situation intenable. Et puis, en 1937, Don Jamais, qui était venu à plusieurs reprises au cours des premiers mois de cette année-là, et remplace l'aumônier sulpicien. Et puis, il va le devenir pour de vrai, comme on dit. Il fut donc décidé de demander à Don Cosien, l'abbé de Solesmes, une obédience permanente pour Don Jamais. Et puis, dans une lettre, Don Cosien écrit à Mère Gertrude Adam, « Vous avez trouvé la formule, le 3 novembre 1937, concédée aux Sulpiciens sur leur demande de nous arranger de Don Jamais pour un temps, jusqu'au retour du Sulpicien M. Neveu. Et puis, cela peut être convenu ainsi dans le moment, et nous verrons, j'ai confiance que tout ira bien, et tout va bien se passer. Tout va si bien que le provisoire devient bientôt définitif. Il est aumônier. » Et on l'appelle le grand moine. Il a l'intelligence, il est grand par le savoir, il est grand aussi par le cœur, Don Jamais. Son dévouement se joint à la discrétion. Et pour tous ceux qui abordent le monastère des Bénédictines, il est incomparable. On peut dire qu'il a posé au Québec, où il est universellement estimé et aimé. Et il a porte un secours en permettant aux nouvelles moniales d'être au courant de tout ce qui se passe au pays puis de s'habituer ici. Don Jamais a en effet contracté des amitiés solides au Canada comme en France. Hein. Le cardinal Villeneuve, Monseigneur Courchesne, de tristes mémoires sous certains rapports par rapport à Monseigneur Charbonneau, mais on écrit que quant à l'enseignement spirituel et à la direction des âmes, il était difficile de trouver mieux. Et c'est ce que disait Mère Gertrude à l'abbesse de Kergonan. Kergonan, c'est tout près là où il y a des menhirs en Bretagne, dans le sud de la Bretagne, Kergonan. Elle lui écrit en 48, pour le dedans, un tact exquis. En parlant de Don Jamais, une délicatesse parfaite, avec une sollicitude vraiment paternelle pour les âmes, beaucoup de sagesse, pas possible avec lui de donner dans l'illuminisme. Avec cela, très compréhensif. Avec moi, c'était l'idéal de la collaboration. Quelle sécurité! Avec cela, une âme de cristal. Quelque chose de tellement pur que jamais on n'aurait pu être l'objet d'un attachement excessif. Il pouvait être aussi cordial que possible sans que fléchisse une réserve qui donnait encore plus de charme à sa cordialité. Tous les parents et Émile l'aimaient bien. Quel beau témoignage après la mort de Don Jamais. Elle évoquait encore le souvenir de Don Jamais dans une lettre en 49, parlant de sa dignité à l'autel, de son onction, de son recueillement. Don Jamais, dit-elle, avait un timbre de voix remarquablement agréable, chaude et en même temps si jeune, que l'on sentait, pour ainsi dire, toute la pureté de l'âme à travers. Et il a laissé un cahier de 40 feuilles volantes rempli de sa belle écriture. On peut citer là-dedans du petit passage, comme je cite donc Don Jamais, Don Albert Jamais dans ce recueil, « La pauvreté est anormale du chrétien, surtout du moine, non seulement parce qu'il faut tout quitter pour aller au Christ, mais parce que c'est l'état normal du Christ, du Verbe incarné. Alors qu'il était dans la forme divine, il s'est fait mendiant pour nous. D'abord dans la manifestation de sa nature divine, dans son intelligence riche de Dieu, car la pauvreté est dégagement de la servitude des choses matérielles. Elle est élévation, transcendance. Et Don Jamais ajoute, la vie chrétienne, la vie filiale, a pour condition et ambiance la transcendance et la liberté intérieure, comme n'ayant rien et possédant tout. La pauvreté spirituelle, mystique, tout se réduit au dépouillement de l'humain, pour revêtir le mode divin d'être et d'agir, et il a été trouvé en tout semblable aux hommes. L'abrégé de la vie de Marie de l'Incarnation, c'est-à-dire le dernier chapitre de la relation de 1654, tout y est. On a dit que Don Jamais aurait dû consacrer tous ses efforts à la poursuite de l'œuvre commencée sur Marie de l'Incarnation, mais il était bien difficile de se soustraire à tout ce qu'on lui demandait. Il y avait à l'horizon deux centenaires, celui de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec, 1639-1939, puis celui de la fondation de Montréal, 1642-1942. Et pour célébrer le premier, bien les hospitalières lui demandèrent de préparer la publication des annales de l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis pour le deuxième, celui de Montréal, les religieuses de la Congrégation Notre-Dame lui ont demandé d'écrire une vie très complète de Marguerite Bourgeois, qui lui a valu ce prix dont je vous ai parlé au tout début de l'émission. Alors, il avait du travail, hein? Beaucoup de travail. En 37-38, lorsqu'il commence à préparer la monumentale édition des Annales de l'Hôtel-Dieu, il n'avait encore que 56 ans. Et puis, il s'est distrait donc un peu de Marie de l'Incarnation. Mais grâce à l'aide financière des hospitalières, il va donner libre cours à son amour des beaux livres et des grandes éditions dans le style de celle des mauristes, des moines de Saint-Maur, les bénédictins fantastiques d'il y a deux siècles, et il réalise une folio digne des grandes heures de la typographie du XVIIe siècle, c'est-à-dire d'il y a plutôt trois siècles et demi. Et puis, l'achevé d'imprimer est de 1939, le 15 août, deux semaines avant que l'Europe ne soit plongée, pour 6 ans dans la guerre épouvantable. Puis la biographie de Marguerite Bourgeois en deux volumes, qui occupe ensuite Don Jamais, peut-être pas un chef-d'œuvre absolu, quoique il ait reçu la médaille, comme je vous ai dit, de la Société historique de Montréal. Elle renferme peut-être trop de longueur, selon Don Houry, qui est un spécialiste. Don Jamais n'était pas entièrement libre de traiter sa matière comme il l'entendait. À la Congrégation Notre-Dame, on désirait un gros livre qui épuisait le sujet et le lecteur. Et Don Jamais a été trouvé parfois un peu radical dans sa manière critique de traiter de certains miracles rapportés par la tradition. Mais avec ses défauts, la vie de Marguerite Bourgeois est un livre important, qui n'a pas été remplacé, qui a beaucoup contribué à faire connaître les années difficiles de Montréal à partir de 1653, date de l'arrivée de cette grande sainte qui est sainte Marguerite Bourgeois. Faisons donc une pause pour écouter un extrait du livre d'orgue de Montréal, un récit interprété par Jacques Boucher sur les grandes orgues de Notre-Dame de Mortagne dans le Perche. La guerre de 1939-45 entraîne la défaite française en mai et juin 1940. Ça coupe donc jamais de toute relation directe avec son abbaye de Solesmes, avec Paris, puis avec Bruges aussi, où il avait de la correspondance importante. La poursuite de la publication des œuvres de Marie de l'Incarnation ne pourrait être envisagée qu'après la cessation des hostilités de cette guerre épouvantable. Et nul ne peut prévoir, évidemment, la durée de ce conflit effroyable. Don Jamais commence donc, sans se presser, à préparer le troisième volume des lettres. Les épreuves traversées par son pays pèsent lourd sur ce moine. Il aurait probablement préféré les partager que de se trouver si loin, sans nouvelles pendant des mois. De temps à autre, il y a une lettre qui passe par l'Espagne. Et c'est ainsi qu'il apprend, par une lettre de Don Cosien à Mère Gertrude Adam, abbesse de Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes, une lettre du 18 juillet 1941, la mort du fameux chanoine Denis dont je vous ai parlé au début, le grand ami de son enfance dont il mangeait les confitures à Tours. Mais à l'abbaye de Sainte-Marie, le monastère grandit rapidement. Il y avait 30 religieuses déjà à la fin de 1941. Les Québécoises rentrent en grand nombre. Il devient nécessaire d'élargir les murs. Il faut agrandir. Finalement, dès la fin de l'année 1944, la France était presque entièrement libérée et l'Allemagne signait une capitulation sans condition le 8 mai 1945. J'étais au monastère ce jour-là et je me souviens, avant le repas du midi, Don Mercure, prieur, nous a dit « La guerre est terminée. Nous chanterons un Te Deum après le repas. » Et là, il a commencé « Benedicite » et c'était tout ce qu'on a appris. Et après le repas, nous sommes allés au chœur, comme d'habitude, pour terminer l'office de tierce. Et ensuite, nous avons chanté un Te Deum. C'est pendant la récréation qu'on a appris un peu ce qui s'était passé vraiment. Ah, dans les monastères, dans ce temps-là, on n'apprenait pas grand-chose aux noviciats. Alors, les communications sont lentes à rétablir en 1945. Les liens se renouent. Le 10 août 1945, une lettre adressée à Mère Gertrude Adam par Don Savaton contient ces mots. Votre éminent et cher aumônier ne viendra-t-il pas revoir le pays et son vieux compatriote Tourangeau? Mais c'est pas lui qui va franchir l'océan, c'est Don Gabriel Tissot, l'abbé de Coire, qui était grand et extrêmement gentil, qui était délégué par l'abbé de Solesmes. Puis, l'année suivante, Don Cosien, Germain Cosien lui-même, aussi très sympathique, pour la bénédiction abbatiale de Mère Gertrude. Dans ce temps-là, on parlait aux abbés comme ça, à la troisième personne. Est-ce que le très révérendissime père pourrait, etc. C'est incroyable, les coutumes ont tellement changé, mais c'était tellement solennel à l'époque quand on parlait à ces abbés, car c'était un prieuré à Saint-Laudula qu'on n'avait pas d'abbé encore. Puis ils nous apprenaient ça tout jeune, on avait 18 ans, 19 ans. Parler à des abbés, c'était pas des farces. Tout a bien changé, tout est tellement plus simple aujourd'hui. Et alors, le Don Cosien vient pour la bénédiction abbatiale de Mère Gertrude Adam, et puis l'archevêque de Montréal, évidemment, vient tout ça. La cérémonie a eu lieu dans l'église de Saint-Eustache le 7 octobre 1946, et Don Jamais, qui a 63 ans, prononce la locution magnifique en présence de l'archevêque de Montréal, donc, puis d'une nombreuse assistance, mais il ne se sentait que de plus en plus souffrant. Ça avait commencé dès 1942 et au milieu de 1948, il était très mal. Mère Gertrude Adam écrit le 20 août 1948, depuis 6 ans environ, on lui avait trouvé un ulcère. Et c'était un ulcère qui ne devrait pas donner de cancer et pourtant, il a beaucoup souffert de l'estomac. Tout le mois de juillet, il s'affaiblissait graduellement puis il est parti le 9 août pour l'Hôtel Dieu de Québec. Où il est, comme chez lui, avec ses meilleurs amis dans la ville. D'un cancer à l'estomac, il souffre très peu du mal lui-même et le cœur est très faible. Et durant son séjour de 15 jours à l'Hôtel Dieu, dont jamais, est visité régulièrement par un Français, le docteur Montel, qui est réfugié au Québec, grand ami de Solène, par la princesse Isabelle de Bourbon-Parme, sœur de l'impératrice Zita, qui est réfugiée aussi là-bas, et 3 moniales de Sainte-Cécile de Solème, qui s'étaient également réfugiées à Québec avec sa mère, la princesse de Parme. C'était des nobles. Il est parti, dit-on, dans la nuit du 23 au 24 août 1948. C'est ce qu'écrit Mère Gertrude Adam. À 3 heures le matin qu'il est mort, le 24 août, à 3h30, très doucement. C'est ce qu'elle écrit à l'abbesse d'Osterhout en Hollande. Sœur Marie-Joseph et Sœur Joseph étaient là, les 2 sœurs externes de Sainte-Marie, et le Père Mathis, dont je vous ai, sujet duquel je vous ai déjà fait une émission, prieur de Saint-Benoît-du-Lac, puis le Père Aumônier. Le Père Jamais était arrivé au bout de l'urémie, et sans s'en douter. Quand il est arrivé à Québec, c'était fini. Il avait 65 ans. Les reins étaient morts. L'Hôtel Dieu a été embaumé par cette mort si sainte. Jamais une plainte ni un désir. Pour moi, grande sœur, c'est toujours Mère Gertrude qui crie, pour moi, grande sœur, c'est une perte immense. C'était l'idéal d'un chapelain. Profonde vie intérieure. Doctrine haute, sûre, parfaite. Une grande distinction. Un tact exquis. Une délicatesse. Discrétion. Et en même temps, sollicitude et intérêt. Avec cela, un travailleur auquel ne pesait pas la solitude. C'est un concert de louanges et d'affection qui s'élève de tous côtés. Alors le 24 août au soir, son corps est ramené à Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes, à Saint-Eustache. Monseigneur Charbonneau, archevêque de Montréal, vient lui-même présider les funérailles à l'église de Saint-Eustache. Les moniales avaient eu la permission de sortir de clôture pour assister à la cérémonie et chanter la messe à la tribune de l'église. Il est enterré dans le cimetière des moniales. Quand l'église a été construite en 1956, son corps a été déposé dans la crypte. Voyez-vous, écrivait encore Mère Gertrude à l'abbesse d'Osterhout le 9 octobre, on jouissait de ce que le bon Dieu nous avait donné sans trop nous rendre compte, que c'était bien au-dessus de l'ordinaire, on le réalise durement. Alors l'achèvement de l'édition des œuvres de Marie de l'Incarnation se trouvait reporté au calendrier grec. On a pensé à Don Emmanuel Flicoteau, que j'ai connu aussi, qui est venu de Saint-Paul-de-Visque comme aumônier. Quel homme drôle, il disait qu'à la gare Windsor, en arrivant, il parlait français, on lui répondait en iroquois. Il ne comprenait rien de ce qu'on lui disait. Il disait, je me rendais pas compte que c'était du français, je le sais maintenant. Mais avec l'accent, je croyais que c'était de l'iroquois. Pauvre homme, il arrivait, mais il a changé d'avis en quelques semaines. En fait, Don Flicoteau était un liturgiste, puis il pouvait pas le faire. Et puis, on a pensé à d'autres, et puis ce sont des moniales qui se sont chargés un peu. Et puis le père Lucien Campeau, qui a accepté de seconder, hein, on entend sur nos ondes le mercredi matin avant mon émission, et à 11h30 le soir. Finalement, Don Jamais a rédigé une 50aine de pages de sa future vie de Marie de l'Incarnation, sous une forme assez semblable à celle de Marguerite Bourgeois.